Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église. Nous sommes en direct depuis 7h du matin de la maison diocésaine Saint-Pierre de Rodez, à quelques jours de l'ordination du père Luc Meyer qui deviendra officiellement évêque de Rodez et de Vabre le 17 septembre en la cathédrale de Rodez. Et pour préparer ce grand moment que l'Aveyron attend depuis plus d'un an, nous avons posé notre studio pour aller à la rencontre des acteurs de l'Église en Aveyron. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le père Luc Meyer. Bonjour mon père.
Bonjour Timothée, bonjour chers auditeurs.
Quelques informations que j'ai pu collecter pour vous, sur vous en tout cas, même si Isabelle Duché vous a déjà bien présenté tout à l'heure. Vous êtes né le 13 septembre 1968 à La Ferté-Massé dans l'Orne. Vous avez été ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Laval. Et avant cela, vous avez été enseignant et adjoint au directeur diocésain de l'enseignement catholique chargé de la pastorale scolaire, professeur de théologie dogmatique à Nantes, supérieur du séminaire et vicaire général du diocèse de Laval. Et j'en passe, ça fait beaucoup de choses. C'est une nouvelle expérience aujourd'hui d'arriver en Aveyron et d'être nommé évêque.
C'est une nouvelle expérience, c'est une joie d'abord pour moi d'avoir été appelé. Je me réjouis de la confiance que le Saint-Père m'a fait et puis aussi de l'accueil qui m'a été réservé jusqu'à maintenant en Aveyron.
Mon père, j'aimerais débuter avec votre devise épiscopale qui va permettre de bien mettre les choses et bien lancer cette émission. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, tiré de l'épître de Paul aux Romains. Pourquoi ce choix ?
C'est un choix qui s'est imposé à moi. Donc, il y a un moment, je me suis dit, quelle est la phrase du Nouveau Testament qui te plaît le plus aujourd'hui et qui correspond à ce que tu ressens comme important à partir de ton expérience. Alors, j'ai beaucoup baptisé depuis 22 ans, des centaines et des centaines d'enfants. J'ai accompagné aussi des adultes vers la préparation au baptême. Et cette phrase magnifique qui nous renvoie au geste de remettre le vêtement blanc pendant le baptême, beaucoup d'entre nous l'ont vécu, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », elle m'a paru très très belle. Saint Paul écrit aux Romains, à l'époque il y a peu de chrétiens à Rome, une toute petite communauté, et il les invite chaque matin, si j'ose dire, à s'habiller le cœur avec la joie, la paix et la charité du Christ. Donc je me dis que c'est vrai pour chaque chrétien, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ chaque matin. Et puis c'est vrai aussi pour l'annonce de l'Évangile, c'est une invitation, c'est un témoignage d'une expérience à vivre, de se comporter comme chrétien et d'en faire l'expérience.
Vous avez témoigné auprès des chrétiens de Mayenne de votre attachement à la Vierge Marie à Paris à Pontmain en 1871. Elle invitait à la prière, assurant que son fils se laisserait tomber. Le diocèse de Rodez possède de nombreux sanctuaires mariaux. Qu'est-ce que ça vous suggère, cette présence mariale à Rodez et aux alentours ?
Je pense que notre bonne mère de la Mayenne, elle est présente aussi en Aveyron. Et pour moi, c'est une joie, tout simplement. Et j'ai hâte de découvrir tous ces sanctuaires qui me paraissent vraiment un beau témoignage de la piété populaire depuis des siècles et des siècles, et puis aussi de la douceur et de la bonté de la Vierge Marie. Vous savez qu'à Pontmain, elle présente son fils crucifié à des enfants dont les grands frères, les oncles et tantes sont partis à la guerre. Et elle a dit « Dieu vous exaucera en peu de temps, mépriez mes enfants ». Et les 38 enfants, les 38 jeunes qui étaient partis à la guerre sont revenus. Donc c'est un signe de paix, un signe de confiance dans l'avenir. Et je trouve que c'est bien que la Vierge Marie soit pour nous cette assurance maternelle qui veille sur nous.
On est le 9 septembre, ça fait une vingtaine de jours que vous êtes dans ce beau département de l'Aveyron. C'est pas forcément commun d'arriver aussitôt. Pourquoi c'était important pour vous, avant d'être ordonné évêque, d'être présent et d'aller à la rencontre ?
Alors je peux dire avec beaucoup de gentillesse que j'ai senti une certaine attente. Et donc, ma nomination étant le 7, je suis arrivé le 11 juillet.
Vous avez été rapide.
J'ai passé 3 jours extraordinaires. J'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai pris beaucoup de photos pour essayer de fixer dans ma mémoire. Et puis, je suis revenu à partir du 19 août. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on m'a dit, mais est-ce que vous voulez bien nous accompagner à Lourdes ? Alors, je dis, je ne suis pas encore ordonné. Ah bon, mais ce n'est pas grave. Allons-y. Et là, je suis parti avec 900 Aveyronnais. Donc ça faisait une présence d'Aveyronnais au kilomètre carré très importante qui m'a évité de prendre ma voiture pour découvrir des gens de partout. Et ça a été une belle expérience pendant 4 jours, et j'ai été complètement rabiscoulé.
Justement, comment vous l'avez vécu, ce pèlerinage diocésain à Lourdes avec ses 900 Aveyronnais?
J'ai senti une force, une joie, et puis j'ai été très marqué par la présence des jeunes, et notamment, je crois, des 59 jeunes qui sont venus au Prépélé dès le jeudi. C'est une belle vitalité, et je crois qu'après 2 années de Covid, il y avait beaucoup de joie à se retrouver déjà plus nombreux, et puis j'espère que l'année prochaine, on sera plus nombreux encore.
L'appel est lancé en tout cas. Autre que ce pèlerinage diocésain, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Visiter un petit peu les villes importantes de l'Aveyron? Je pense à Villefranche de Rouergue, à Conques aussi.
Alors je suis allé à Villefranche, je suis allé dans l'Aubrac. J'ai déjà fait un petit peu de tour. J'ai aussi rencontré les chefs d'établissement du Lot et de l'Aveyron, en présence aussi de Mgr Laurent Camiade, puisque la semaine dernière avait lieu la session de rentrée, la journée de rentrée et l'envoi en mission des chefs d'établissement. Et là aussi, c'était tout un maillage au service de la société, un service public d'éducation qui est assuré par l'Église catholique. Et j'étais heureux de rencontrer ces chefs d'établissement. Et je peux vous dire qu'ils ont le même charisme, le même sourire, la même soif à la rentrée que les chefs d'établissement de mon diocèse d'origine, la Mayenne.
Justement, les jeunes, ça vous tient particulièrement à cœur. Vous avez anticipé ma question. Les rencontrer lors de cette rentrée de l'enseignement catholique, c'est quelque chose de fort, c'est un signe fort de votre part aussi.
Alors c'était un signe que je n'ai pas voulu donner, c'est un signe qui s'est donné d'une certaine façon. Pour moi, c'était essentiel. Enfin, je pense que vraiment, prendre soin de notre jeunesse, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre à la société. Et je pense que l'Église, dans la société, elle a vraiment un service d'éducation, un service d'accompagnement pour que l'avenir soit ouvert. Dans un climat, dans des mutations sociales où les choses sont difficiles, ce service d'éducation, ce service de formation, d'accompagnement, c'est une passion d'espérance.
Dans quelques jours, vous allez être officiellement nommé évêque de Rodez et de Vabres. C'est important de parler de ce diocèse de Vabres, petit diocèse mais rattaché à celui de Rodez. Comment vous avez appris déjà cette nomination et comment vous l'avez vécu antérieurement?
Alors, je peux vous dire que j'étais un tout petit peu étonné. J'étais en réunion avec le service diocésain de la formation permanente du diocèse de Laval. Il était 14h05 et je reçois un WhatsApp. Un WhatsApp signé Celestino Migliore. Alors je savais qui c'était, mais je me suis dit c'est quand même étonnant que le nonce apostolique en France envoie un WhatsApp. Donc je sors de la salle, je consulte mon répondeur téléphonique et là je l'entends en italien avec le même numéro de téléphone. Je me dis il a un bon accent, c'est peut-être pas une blague. Mais j'étais quand même un peu inquiet. Je me dis, c'est quand même étonnant. Enfin, alors j'ai appelé mon évêque. Je lui ai dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Voilà le numéro de téléphone. Est-ce que vous connaissez ce numéro de téléphone? Il m'a dit, oui, c'est celui du nonce. Donc c'est comme ça que je l'ai appris. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, tout bascule. Et qu'on se dit, je vais découvrir un horizon nouveau. Tout ce que je suis en train de construire là, on va le léguer. Et puis on va apprendre à découvrir ailleurs. Donc là, on est entré dans une période un petit peu délicate. Et puis, il se trouve que le lendemain matin, là, c'était un lundi après-midi, le lendemain matin, mon papa est décédé. Donc là, j'ai été une période de quelques semaines assez troublée.
Comment vous vous préparez à occuper cette fonction d'évêque? C'est une lourde charge à porter.
Alors, j'aurais envie de dire, nous nous préparons. Parce que ce n'est pas « je me prépare », c'est « nous ». Nous travaillons en équipe. Alors, j'ai été très bien accueilli par l'administrateur diocésain. Mais dès le mois de juillet, j'ai pu rencontrer des membres du Collège des consulteurs, des membres des doyens, des membres du Conseil épiscopal qui était libre. Et j'ai envie de dire que nous nous préparons parce que l'évêque n'est pas seul. C'est une personne morale, si j'ose dire. Il travaille en équipe.
Le fait que l'Aveyron ait attendu 1 an pour avoir un évêque, ça rajoute, j'imagine, une responsabilité supplémentaire. Vous êtes attendu?
Alors probablement que pendant cette année-là, il y a un certain nombre de dossiers qui n'ont pas pu aboutir, puisqu'on attend en général la décision finale de l'évêque, qui ne décide jamais seul, mais qui permet de finaliser un certain nombre d'orientations. Et donc ici, évidemment, je pense que dans les mois qui viennent, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été cumulés et qu'il va falloir écluser.
Dans une semaine, vous serez officiellement nommé. Qu'est-ce qui vous attend ? Avant cette nomination officielle?
Alors, on a préparé la liturgie avec le livre qui est fait pour. Et la première ligne du livre est dit « L'évêque fera une retraite ». J'ai trouvé que c'était très bien, et donc je vais partir 5 jours en retraite en silence. Je vais me cacher, pas pour simplement laisser les autres travailler, parce que j'ai quand même déjà un petit peu travaillé pour la célébration, mais parce que je pense que si l'évêque n'est pas un homme de Dieu et s'il porte pas dans la prière son ministère, il ne serait qu'un vulgaire administrateur, ce qui n'est absolument pas mon projet.
Vous disiez, vous avez pu échanger avec de nombreux fidèles, je pense notamment à cette forte concentration d'Aveyronnais, comme vous disiez, au mètre carré à Lourdes. Vous avez pu échanger aussi avec les évêques des autres départements, je pense notamment à Monseigneur de Quérimel.
Alors, c'est un des premiers rendez-vous que je suis amené à prendre et que j'ai pris très vite. Et donc, je suis allé donc, rencontrer Monseigneur Guy de Quérimel, qui est archevêque de Toulouse depuis 6 mois. Et nous avons passé 3 heures ensemble, à la fois pour mieux se connaître, on s'était déjà croisés, hein, et puis aussi pour avoir des perspectives, parce qu'il me semble que dans les 10 à 20 ans qui viennent, les évêques suffragants, entre guillemets, dans une province, vont être amenés à travailler beaucoup ensemble pour favoriser la collégialité entre évêques et la synodalité entre les diocèses. Je pense que c'est le garant d'un avenir ouvert où on peut construire du nouveau et s'adapter aux mutations du monde actuel.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
La sagesse.
La sagesse, c'est la principale qualité d'un évêque, la sagesse.
C'est celle dont j'ai besoin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir été intervenu à l'antenne de Radio Présence. On va faire une petite pause musicale et après on revient, ça sera dans moins de 4 minutes et on sera avec les membres de l'hospitalité aveyronnaise qui vous ont accompagné pour ce pèlerinage diocésain à Lourdes. Mais juste avant, on écoute « Je suis ton Dieu, ton Créateur » de la communauté de l'Emmanuel.
Présence. Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et nous sommes toujours en direct de cette maison Saint-Pierre, maison diocésaine de Rodez, pour parler de la future ordination de Monseigneur Luc Meyer. Et pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'avoir trois invités en face de moi. Ils se partagent deux micros. Pour commencer, Lauriane Brégout, qui est responsable jeune à l'hospitalité Aveyronnaise, les 18-25 ans. Bonjour à vous.
C'est ça, bonjour.
J'ai aussi le plaisir, juste en face de moi, d'avoir Dominique Morel. C'est un des cinq responsables de l'hospitalité Aveyronnaise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Catherine Labarbarie, qui est responsable de la pastorale de la santé, et vous, c'est votre première fois à Lourdes.
Oui, bonjour.
Je vous laisse la main. Racontez-moi un petit peu ce pèlerinage diocésain à Lourdes. C'était du 17 au 22 août. Vous, c'était la première fois. Comment vous l'avez vécu, cette expérience ?
Alors, je l'ai très bien vécu. C'était une magnifique expérience. Ça fait longtemps que j'entendais parler du pèlerinage de l'hospitalité aveyronnaise, mais je n'avais jamais pu y participer pour des raisons professionnelles. Et cette année, j'étais très heureuse de pouvoir participer. J'ai vécu des choses très belles. Et en relisant cette expérience, j'ai pensé aux actes des apôtres, au moment où on explique comment vivaient les premières communautés qui prient d'un seul cœur et sont au service les uns des autres. Voilà, c'était magnifique.
On sent encore votre émotion dans votre voix. Vous êtes intervenue en tant qu'hospitalière, c'est-à-dire que concrètement, vous avez fait quoi là-bas ?
Alors oui, je suis intervenue en tant qu'hospitalière. J'étais dans le service des chambres, où en fait, on aide les personnes le matin pour se lever, pour faire la toilette. Ensuite, on les conduit au restaurant pour prendre leur repas. Et puis, on les aide dans tous les actes de la vie quotidienne.
Dominique Morel, je vous laisse récupérer le micro. Vous aussi, vous étiez présent à Lourdes du 17 au 22 août pour ce pèlerinage diocésain. Ce n'était pas votre première fois, vous ?
Non. Ça fait peut-être bientôt 40 ans de
présence. Ah oui, vous êtes un habitué alors.
Voilà. Je peux dire qu'en tant que responsable, nous avons été très heureux de retrouver un nombre plus important par rapport à cette
dernière. Oui, on le disait avec le père Luc Meyer, voilà. futur évêque de Rodez.
Nous étions plus de 500 hospitaliers accompagnés, 190 personnes malades, handicapées, personnes âgées. Et parmi ces 500 hospitaliers, nous avons été très heureux d'accueillir 60 jeunes nouveaux, des 14 et 18 ans, plus des jeunes majeurs, qui sont la joie de notre pèlerinage.
Et on en parlera avec Lauriane Brégout dans quelques instants. À titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte, ce pèlerinage ? C'est ressourçant, début d'année, d'aller à Lourdes ?
Tout à fait, nous revenons déjà tous du pèlerinage, le cœur gonflé à bloc. Nous gardons dans notre cœur, il faut garder dans notre cœur tout ce que nous avons vécu de beau à Lourdes. Le service auprès de nos frères âgés, malades et handicapés. Les temps de fraternité entre hospitaliers, les temps d'écoute entre nous, c'est très important aussi. Les temps de prière, les temps de célébration avec le... En pèlerinage diocésain, mais célébration également avec d'autres diocèses. La messe internationale qui nous donne la dimension de l'Église universelle.
C'est important de se réunir, surtout en ce moment, après deux ans de crise sanitaire qui ont été compliquées, où le pèlerinage a été fait, mais en effectif réduit. Ça fait du bien de retrouver du monde.
Oui, cela fait du bien. Et de pouvoir vivre ensemble ce service. C'est vrai que qui dit pèlerinage dit quitter chez soi et se donner à fond. Chacun donne de sa personne pour vivre ce pèlerinage, pour accompagner surtout nos frères malades. C'est l'objectif de que nos frères malades puissent vivre dans la joie ce pèlerinage, ce temps de pèlerinage. Vous savez, pour certains, c'est peut-être la seule sortie de l'année. Nous accompagnons à Lourdes des personnes vivant chez elles, des personnes vivant la solitude.
L'hospitalité aveyronnaise, vous êtes l'un des cinq responsables de cette hospitalité. En plus de ce pèlerinage diocésain annuel, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, l'hospitalité aveyronnaise est un mouvement donc, de notre église diocésaine sous l'autorité du père évêque. Et nous sommes organisés en sections. Le Nord-Aveyron, le Mirevoix, le Saint-Africain, la Villefranchois, la section de Decazeville et la section de Rodez. Donc nous avons un maillage important sur tout le territoire d'hospitaliers et hospitalières qui prennent des responsabilités, qui tout au long de l'année sont présents auprès de nos frères malades, de par un coup de téléphone, de par un petit courrier, de par une visite. Et chaque section organise régulièrement des temps de rencontre, des temps de rencontre également avec, en présence des malades. C'est comme ça que l'on prend connaissance des malades et que nous les invitons à participer au pèlerinage diocésain.
Lauriane Brégou, je vous laisse prendre le micro qui est juste posé sur la table. Vous êtes responsable des jeunes au sein de l'hospitalité à Véronèse. Déjà, à titre personnel, comment vous avez vécu ce moment? J'imagine que vous avez participé plusieurs fois à ce pèlerinage diocésain.
Alors oui, ça fait 12 ans, si je ne me trompe pas. Alors c'est moins que Dominique, oui. Beaucoup moins que Dominique. Mais ça fait une dizaine d'années que j'y participe et c'est toujours une joie de faire ce pèlerinage auprès des jeunes. Parce qu'on se rend compte de tout ce que ça leur rapporte. Et je pense qu'ils trouvent un vrai sens à cette mission, en fait. Sans s'en rendre compte et sans poser le mot dessus, ils partent vraiment en mission auprès de ces personnes âgées, de ces personnes malades. Et on a une devise à l'hospitalité que je me permets d'énoncer, qui est « on vient pour donner, mais on reçoit beaucoup plus ». Et je pense que les jeunes en font vraiment l'expérience, c'est qu'ils viennent pour donner et dans la relation qu'ils ont avec les malades, ils reçoivent énormément et tous nous le disent au retour du pèlerinage, c'est un échange qui est très, très fructifiant et en tant que responsable, c'est toujours un immense bonheur en fait de les voir discuter avec les papy-mamies comme on dit nous. Enfin voilà, c'est de les voir sourire, de les voir échanger, c'est toujours un vrai bonheur.
Ça leur permet de sortir un petit peu de leur quotidien qui peut être très attiré par les nouvelles technologies. Ça permet de se recentrer sur l'humain aussi.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui leur permet de donner du sens en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'avais leur âge. Et c'est ce qu'on essaye en tant que responsable de leur transmettre un petit peu, ce fait de donner du sens et le fait qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent changer un peu le monde à leur petite échelle, mais changer le monde quand même en donnant du sens justement à leur vie et à la vie des autres.
Et j'imagine que c'est un échange de générations aussi entre les personnes âgées et les jeunes. Les personnes âgées, ça leur fait du bien aussi d'avoir des jeunes autour d'eux, ça leur rappelle peut-être des petits-enfants.
Oui, totalement. C'est une relation presque grands-parents, petits-enfants, ça c'est évident et ça se sent. Il y a une complicité qui se crée. Parfois, il y a même des amitiés qui se créent. J'en parlais encore cette année avec un de mes jeunes là, qui a 19 ans et qui a créé une amitié avec une petite mamie l'année dernière, je crois. Et ils se sont écrits pendant toute l'année, ils se sont vus. Enfin, c'était impressionnant alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et voilà, il y a une vraie complicité, une vraie amitié qui se crée entre eux et qui est belle à voir, quoi.
À ce pèlerinage diocésain à Lourdes fin août, il y avait aussi un fidèle qui était un petit peu différent, un pèlerin qui était un petit peu différent des autres, c'est le père Luc Meyer. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger aussi un petit peu avec lui?
Oui, alors notamment les jeunes mineurs. Donc les mineurs, comme le disait Dominique, c'est ceux qui ont entre 14 et 18 ans, donc ils sont aussi encadrés par des responsables. Et ils ont eu l'occasion d'avoir un moment très chouette avec l'évêque, que nous on appelle le temps carte blanche. Donc en fait, ils ont posé des questions sur un papier de manière anonyme, qu'ils ont mis dans un béret, le béret qui fait partie de la tenue de l'hospitalier. Et l'évêque a tiré du coup les petits papiers au fur et à mesure et a répondu aux questions. Donc c'était très chouette parce qu'il y a eu des questions très diverses du parcours personnel de l'évêque, des questions un peu plus sensibles, on va dire, un peu plus de leur âge. Donc voilà, je pense qu'ils ont apprécié aussi d'avoir ce petit temps privilégié, on va dire, avec Monseigneur Meyer et voilà, ils étaient contents de ça.
Et vous, Dominique Morel, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec le père Luc Meyer? C'est aussi bien de l'avoir avant sa prise de fonction.
Tout à fait. Nous avons été très heureux de sa présence parmi nous et de sa disponibilité envers les uns et les autres. Il a été disponible avec tous les hospitaliers, des poignées de main serrées, des paroles échangées. Il a été présent aussi auprès des malades. Il est venu dans les réfectoires, les salles de restaurant, à l'accueil Notre-Dame, où nos malades prennent leur repas. Nous l'avons accueilli comme un frère, comme un ami, comme prêtre, en tant que prêtre et en tant que notre futur évêque. il a été c'est un souffle nouveau, je pense, pour notre église diocésaine.
Parce que c'est important d'avoir cette proximité entre l'évêque et les pèlerins, les fidèles.
Tout à fait, puisqu'il représente toutes les composantes de notre église diocésaine. Donc même nous, en tant que mouvement de l'hospitalité aveyronnaise, nous sommes sous l'autorité du père évêque.
Catherine Labarbarie, je vous laisse reprendre le micro à Dominique Morel. Vous êtes responsable de la pastorale de la santé au sein du diocèse de Rodez. On est chez vous, ici. Ça fait un an que vous attendiez l'arrivée d'un nouvel évêque. Votre sentiment ?
Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que ça fait un an que je travaille à la pastorale de la santé. Et je n'ai
jamais travaillé avec un évêque.
Mmh. Du coup, voilà, c'est tout est nouveau.
Mais ça permet d'avoir aussi un repère.
En tout cas, c'est enthousiasmant de se dire que je vais travailler avec un évêque pour la première fois de ma vie. Voilà, à Lourdes, je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai observé. Et je peux témoigner de son regard quand il donnait le sacrement des malades. Et aussi quand il donnait la communion aux personnes malades. Et ça m'a donné vraiment envie de le rencontrer.
Lauriane Brégout, je vous laisse prendre le micro. Le père Luc Meyer, qui sera nommé évêque de Rodez et de Vabre dans quelques jours. Il est très proche des jeunes. Les jeunes, ça lui tient très à cœur.
Oui, et c'est très chouette et on est vraiment enthousiasmés aussi de pouvoir travailler avec un père évêque qui est autant proche. Enfin, encore une fois, on n'a pas vraiment eu l'occasion de vraiment échanger avec lui, mais c'est vrai que c'est encourageant, surtout pour tous les événements diocésains que nous on va mettre en place un petit peu dans l'année au niveau de la pastorale des jeunes et de la pastorale des adolescents. De savoir qu'on pourra compter sur lui aussi pour être présent, et j'espère que lui appréciera aussi ces moments d'échange avec les jeunes. Mais c'est une très bonne nouvelle.
Et on aura l'occasion d'en parler dans la troisième partie de cette émission. Dominique Morel, Catherine Labarbarie et Lauriane Brégout. Vous restez, Lauriane Brégout. Juste après, on abordera cette thématique de l'enseignement catholique et de la pastorale des jeunes. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus au micro de Radio Présence en direct de la maison diocésaine de Rodez. On va faire une petite pause musicale et on revient dans moins de 3 minutes. Rassurez-vous, on écoute Crier de Grégory Turpin.
Je croyais tout savoir, mon passé, mon histoire. Une vie bien rangée, un avenir tracé. Qui décide où l'on est, qui dessine qui l'on est. Mon destin, j'en sais rien. Qu'il soit entre tes mains. Qui me pousse à partir, moi qui ne suis personne, elle me pousse à agir. Cette peur aux entrailles, cette envie de hurler, eh bien, bye goodbye.
À Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et nous sommes toujours en direct de cette maison diocésaine Saint-Pierre de Rodez pour la future ordination de Monseigneur Luc Meyer. Ce sera samedi prochain, pas demain, mais samedi prochain. Et on aborde cette troisième partie d'émission. Le Père Luc Meyer a participé à la rentrée de l'enseignement catholique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Baldi, chargé de mission et chef d'établissement. Bonjour à vous.
Bonjour.
J'ai aussi le plaisir de recevoir, juste à ma gauche, Vincent Solan, qui est animateur de pastoral au lycée François Destin de Rodez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et à ma droite, Jace Saubion, qui est responsable diocésaine de la pastorale des jeunes dans le département de l'Aveyron. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mathieu Baldi, je vous donne la parole. Vous êtes chargé de mission et chef d'établissement. L'enseignement catholique est très présent en Aveyron. Qu'est-ce qu'on entend par enseignement catholique ?
L'enseignement catholique est fort en Aveyron. On scolarise 12 000 élèves, 59 écoles, 21 collèges, 6 lycées, donc un maillage territorial qui est très important. L'enseignement catholique, c'est une école ouverte à tous. Je pense que c'est vraiment ce qui est important. Une école ouverte à tous, une école qui annonce l'évangile, une école qui répond aux besoins de la société, aux attentes de la société. L'enseignement catholique a été fort quand les fondateurs de ces écoles chrétiennes ont répondu aux attentes et aux besoins des parents. Mais aujourd'hui, c'est ça l'enseignement catholique, c'est répondre aux besoins, aux attentes des jeunes. Et l'enseignement catholique est fort quand il a cette mission-là.
Comment expliquer un maillage aussi important en Aveyron ?
L'histoire, évidemment, l'histoire, parce que on a un territoire qui est très fort, un territoire qui est chrétien, et on a entretenu ce réseau d'écoles, parce que nous avons une véritable présence d'église sur le territoire à travers nos écoles. L'école catholique, c'est l'interface entre la société et l'église.
On l'a dit, l'enseignement catholique très présent dans le département de l'Aveyron. On entend souvent par enseignement catholique proximité avec les élèves, accompagnement. C'est ça ?
C'est l'accueil des élèves, c'est la force de l'enseignement catholique. Accueillir les élèves, accueillir les familles, et je dirais accueillir chaque personne, chaque adulte, et rejoindre justement ces personnes-là. Accueillir les élèves dans leur fragilité. On dit l'enseignement catholique est une école ouverte à tous, déjà dans l'accueil et dans la considération que l'on a pour les élèves et pour les familles qui nous sont confiées.
Justement, quels sont les temps forts de l'année de l'enseignement catholique ? C'est aussi rythmé par les cérémonies religieuses et les temps forts de la vie des chrétiens ?
Alors déjà, les temps forts, l'évangile, on le vit au quotidien. Je dirais que l'enseignement catholique murmure l'évangile au quotidien dans tous les actes qu'elle fait avec les élèves. L'accueil des élèves, même dans la rentrée, c'est un moment qui est pastoral, la rentrée. L'accueil des élèves, leur donner le chemin de l'année. On a une mosaïque d'établissements sur le territoire, et l'ensemble de cette mosaïque donne le visage de l'Église. Donc les temps forts sont les temps forts des établissements, bien évidemment, tout ce qui s'y vit, l'annonce des évangiles, et puis des temps forts qui sont, je dirais, plus particuliers dans chaque établissement. Voilà, l'Immaculée Conception, on va avoir le grand temps fort à Conques au mois d'octobre pour la Sainte Foise. Quand je discute avec une collègue chef d'établissement à Sainte-Afrique, il va y avoir des temps forts autour de la Laudato aussi, autour des temps forts dans l'établissement. On va avoir une pièce de théâtre au Nérac au mois d'octobre, pareil sur la Laudato aussi. Donc je dirais que chaque établissement fait vivre, je dirais, la pastorale avec, je dirais, son charisme. Et c'est ça qui est important. Chaque établissement fait vivre le charisme de l'enseignement catholique.
Et vous l'avez dit en début d'intervention, c'est vraiment accueillir tous les élèves, oui. Même les non-croyants.
Évidemment, on n'est pas une école de catholiques pour les catholiques. On est une école catholique ouverte à tous qui propose l'évangile à chacun. Et plus on donne de la liberté aux jeunes, plus ils adhèrent, annoncer l'évangile. On est là vraiment pour, pour tous les élèves, quelles que soient leurs origines, bien sûr. Et les élèves se questionnent, et plus on annonce l'évangile, plus les élèves nous rejoignent.
Il y a l'arrivée d'un nouvel évêque aussi. Oui. Qu'est-ce que ça change pour l'enseignement catholique ?
Qu'est-ce qu'on attend d'un nouvel évêque ? On attend un pasteur. Mmh. On attend quelqu'un qui vienne annoncer l'évangile, crier Jésus dans nos établissements et le Christ. Un nouvel évêque, c'est un père, c'est celui qui donne le cap. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est celui qui accompagne aussi. Vous savez, l'enseignement catholique, si on a 12 000 élèves aujourd'hui, on fonctionne avec, je dirais, des moyens qui sont peut-être moins importants que dans d'autres structures. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien ? Parce que chaque matin, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent avec un métier qui a du sens. Et on a un territoire, justement, où on a une richesse énorme dans l'enseignement catholique. Des personnes extrêmement investies, qui portent des projets à bout de bras, qui font 2 semaines en une seule. On attend quoi d'un évêque qui l'encourage, justement, les forces vives d'un diocèse ? Et l'enseignement catholique fonctionne quand ces forces vives se sentent encouragées.
Il y aura éventuellement des rencontres entre les élèves et l'évêque ? Est-ce que ça a peut-être déjà eu lieu ?
Bien sûr. Le premier jour, les élèves m'ont dit... On a rencontré l'évêque. Ah bon ? À Lourdes. Ils ont été touchés de rencontrer l'évêque. Pourquoi ? Parce que les jeunes se posent des questions. Et une jeune fille m'a dit, j'ai eu mes réponses, justement. Alors, ils ont besoin de rencontrer l'évêque en tant que pasteur. Oui, bien sûr, l'évêque est chez lui dans l'enseignement catholique. Et donc, les rencontres entre l'évêque et l'ensemble de la communauté éducative, enseignants, personnel, président de l'EJEC et élèves, évidemment, ce sont des moments extrêmement important, justement. Sinon, qu'est-ce que l'on aurait de catholique si on n'avait pas, justement, cette vitalité à l'intérieur de nos établissements ?
Vincent Solange, je vous laisse prendre le micro. Vous êtes animateur, adjoint, chargé de pastoral. On peut donner plusieurs noms. Au lycée François Destin de Rodez, qui est un lycée important de l'Aveyron. Quel est votre rôle, concrètement ?
Peut-être je pourrais dire mon premier job, c'est d'être disponible pour les élèves. C'est-à-dire, voilà, au-delà de l'annonce de la foi chrétienne, au-delà de la pastorale en tant que telle, je crois que le premier rôle, le premier apostolat de la pastorale, c'est d'être disponible, d'être à l'écoute des élèves. Alors ça, du coup, c'est moi, j'ai du vrai temps qui est dégagé pour ça. Il y a une salle de pastorale qui, à François Destin, donne sur la cour et hyper accessible et qui permet d'être vraiment disponible pour les élèves, pour les connaître très concrètement, avoir le temps de discuter avec eux, connaître leurs préoccupations, ce qui les anime, ce qui les fait vivre. Et du coup, c'est à partir de là que va se créer une vraie proximité. Et avec certains, la possibilité d'avoir des projets communs, de porter des choses ensemble. Alors des fois, des choses qui vont relever de l'animation pure pour faire vivre le lycée. Et c'est hyper beau, c'est hyper motivant quand on voit que des jeunes s'approprient un peu leur vie quotidienne et transforment leur établissement scolaire en une sorte de deuxième maison. Chaque année, quand les élèves de première et terminale présente la pastorale aux élèves de seconde, c'est un peu ça qu'ils disent. Ils disent, voilà, c'est un peu notre maison FDE, François Destin. Il faut en prendre soin, il faut respecter, il faut ceci, il faut cela. Mais c'est parce qu'ils l'investissent de propositions hyper personnelles et d'autres choses qui vont vraiment relever de la pastorale, qu'on va vraiment rattacher à la foi chrétienne.
D'un point de vue concret, quelles sont les actions que vous avez mises en place au sein du lycée François Destin de Rodez ?
Pour continuer sur cette lancée, une action qui a mis un peu de temps à venir, que moi j'avais dans le cœur depuis longtemps, c'était de regarder des films et de débattre, d'échanger dessus avec une dimension un peu existentielle. Et en fait, on a attendu que ça vienne des élèves. Donc c'est des fans, ou on pourrait même dire des accros à Marvel, qui ont dit, mais monsieur, c'est extraordinaire, dans Iron Man, on peut réfléchir à ceci, dans Captain America, on peut réfléchir à cela. Et du coup, on se fait des intégrales comme ça, de grosses sagas, on va dire très populaires, mais on l'annonce aux élèves, vraiment avec cette dimension d'échange, de réflexion existentielle et de réflexion sur l'évangile aussi. Et ben, du coup, ça fait partie des propositions, on va dire, de première annonce de la foi, qui sont un peu des portes d'entrée dans la pastorale pour les jeunes, puisque ça leur permet d'être là, d'avoir le plaisir d'être ensemble, et à la fois d'être un peu en découverte par des mini-topos, des petits enseignements, qu'est-ce que ça nous dit de l'évangile, qu'est-ce que ça nous dit du Christ, tel personnage, telle scène, telle question qui se pose, dans le film. Ça, c'est une première action concrète.
Est-ce que vous voulez nous en présenter une deuxième? Parce que je vois votre liste, elle est bien complète.
peut-être le temps fort qui a marqué l'été, à la fois pour François Destin et pour tout le diocèse au niveau de la pastorale jeune, c'était l'école de prière. Donc l'école de prière, c'est pour les enfants de 7 à 14 ans. Et c'est animé par des lycéens et des étudiants. Ça a été lancé par le père Raphaël Buy et le père Philippe Arnel il y a 4 ans. Ils ont démarré, je crois qu'ils avaient 14 enfants. Aujourd'hui, il y avait 40 enfants inscrits, 11 lycéens pour animer les enfants par petites équipes et une dizaine d'adultes pour gérer la logistique, l'encadrement des lycéens et vraiment préparer chaque journée. C'est hyper beau parce que en fait, le mot école de prière a tout son sens. Chacun est évangélisé par les autres. C'est-à-dire que nous, on vient là avec une proposition chaque jour, etc. On commence par la louange le matin. On a un temps vraiment de prière en silence à partir d'un texte d'évangile. Puis la messe tous les jours. Et l'après-midi, c'est vraiment l'ambiance colo, chasse au trésor, etc., etc., jeu de piste. Mais ce qui est hyper beau, c'est que finalement, les lycéens se laissent toucher, se laissent évangéliser par ce que vont être capables de partager des enfants de 8 ans, de 9 ans sur ce qui se passe dans leur cœur, sur leur manière de comprendre la foi chrétienne. Et par rapport à ça, vous étiez tout à l'heure avec l'hospitalité avéronnaise. C'est vraiment une source d'émerveillement pour moi de voir à quel point les jeunes se laissent mobiliser quand on va les voir et qu'on leur dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous ». C'est vraiment une phrase qui fait se lever toutes les mains dans une salle de classe. Et typiquement à cette école de prière, les 11 jeunes là, qui sont venus, ils sont d'abord venus pour être animateurs. Ils sont d'abord venus pour essayer de relever ce défi. Il faut se mettre à leur place. C'est à la fois motivant et hyper impressionnant de s'occuper de 8 ou 10 enfants de 9h jusqu'à 21h le soir et d'en avoir la responsabilité. Ils sont venus pour rendre ce service-là. Mais au final, ils finissent à travers ce service par vraiment plonger dans leur propre vie intérieure, par vraiment découvrir aussi qu'il se passe des trucs dans leur cœur quand ils prennent le temps d'écouter qui il y a.
Jaïssa Sauvian, je vous laisse prendre la parole. Vous êtes responsable diocésaine de la pastorale des jeunes dans tout le département de l'Aveyron. C'est vraiment important de parler de Jésus aux jeunes qui sont en quête de sens aujourd'hui.
Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire parce que ça donne vraiment un sens à leur vie. On vient de vivre 2 ans tellement difficiles, en fait, mondialement parlant. Et Jésus, et c'est lui qui nous donne un peu le rocher et qui nous montre qu'il ne faut pas se désespérer, tout simplement. Et donc, qui est là présent tous les jours dans la vie des jeunes. Donc, sur lui, on peut vraiment compter et ne pas se désespérer. Voilà.
Vincent Solon nous a présenté les actions concrètes qui sont mises en place par la pastorale au sein du lycée François Destin de Rodez. Qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a beaucoup de choses aussi.
Il y a beaucoup de choses, c'est tout un chantier. En fait, on est d'abord avec les animateurs qui sont nos premiers partenaires, on va dire comme ça, avec la pastorale des jeunes. C'est eux qui travaillent et qui œuvrent auprès des jeunes localement dans les paroisses, dans les établissements, que ce soit privé ou public, en paroisse, on va dire, quand ils viennent du public. Voilà, donc c'est un travail d'accompagnement des animateurs. D'abord. Ensuite, on essaye au niveau diocésain de venir soutenir tout ça en proposant des événements. Donc, on a plusieurs événements qui échelonnent l'année et qui ponctuent un petit peu l'année pastorale. On pourra en parler en détail.
Justement, les événements qui vous attendent cette année, les gros temps forts.
Les gros temps forts. On peut commencer à parler des GMJ. C'est notre grand rendez-vous en fait mondial. Donc, on pense être de 30 à 40 000 jeunes français à partir à Lisbonne. Et on aimerait battre ce chiffre-là. Voilà. Et surtout parce que c'est aussi un lieu où on est représenté par le monde entier en fait. Donc, à Cracovie, on était plus de 180 nationalités présentées. Donc, plus présents encore que dans l'ONU. touche. Donc si on peut battre ce chiffre, ça pourrait être super. Donc nous, en Aveyron, on va aussi participer à ce mouvement-là. Voilà. Donc avec des rendez-vous, je vous invite déjà à venir le 24 septembre pour notre premier rendez-vous GMJ. Ici à la Maison Saint-Pierre.
Donc les JMJ, ça sera un gros temps fort. Est-ce qu'il y a d'autres événements dont vous souhaitez nous parler aujourd'hui?
Oui, bien sûr. On a un premier rendez-vous avec, donc j'ai déjà dit, donc le premier JMJ, donc le 24 septembre. Le deuxième, c'est un grand temps fort qui va aussi permettre aux jeunes adolescents de venir. Donc c'est un événement pour les 11-35 ans. C'est un grand concert à Centrafrique. On a appelé ça Tous à Centrafrique. Et là, on veut vraiment démarrer l'année pastorale pour les animateurs et pour les jeunes. Et surtout un grand concert avec Be Witness, un groupe formé par Glorious. Donc ça va être le feu.
Pour la thématique de l'émission, c'est quand même l'arrivée quand même de Monseigneur Luc Meyer. Qu'est-ce que ça change pour les jeunes, pour vous, d'avoir enfin un évêque en place?
Ça change d'avoir un pasteur qui nous guide. En fait, on avait besoin de quelqu'un qui soit là présent et qui nous soutienne. Et cette année, ça a été, on a été quand même accompagnés. On ne va pas dire qu'on a été sans pasteur complètement.
Il y a tous les services de Cézanne qui étaient au service des fidèles et des jeunes, notamment.
Voilà, avec Daniel Bobby, qui était aussi l'administrateur diocésain. Mais lui, ça va nous donner une coloration, je pense, d'église diocésaine. Et on a besoin de ça, d'une personne, de quelqu'un qui nous motive à accompagner le Christ. Et c'est lui qui fera ça pour nous.
Et on en parlait avec Lauriane Brégou tout à l'heure. Il est proche des jeunes, le père Meyer. Ça, c'est un point
ça,
en plus.
Ça, c'est un très bon point. En fait, on a l'impression qu'il a une approche avec les jeunes, une façon de parler qui est captivante. Et du coup, ça entraîne les jeunes à venir et à ne pas avoir peur, justement, parce que parfois, l'Église, elle peut donner une barrière qui est involontaire. Mais lui, avec son sourire, avec sa facilité d'être avec les jeunes, c'est important. Oui.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jace Saubion. Merci beaucoup, Mathieu Baldi. Et merci à vous, Vincent Solan. On arrive à la fin de cette émission, mais tout de suite, vous en avez l'habitude dans Vivante Église. On retrouve l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
L'événement à retenir, c'est l'imposition du pallium à Monseigneur de Quérimet, l'archevêque de Toulouse. Pallium qui sera imposé par le nonce apostolique en France, c'est le représentant du pape dans notre pays, Monseigneur Celestino Miglior. L'imposition débute à 15h et se termine à 17h et elle a lieu ce dimanche à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Vous pourrez d'ailleurs suivre cet événement en direct sur Radio Présence. De son côté, le diocèse de Pamiers propose de participer à une célébration avec prière à Saint-Joseph à Notre-Dame de Celles, dimanche à 15h. La célébration a lieu à la chapelle Notre-Dame de Celles, route de Fréchiné à Celles, en Ariège. Information auprès de Notre-Dame de Celles, à l'abbaye Notre-Dame de Celles, ndde-celles@gmail.com, ndde-celles@gmail.com. Pour conclure, dans le cadre du nouveau cycle Foi et Culture, Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions et membre du comité de rédaction de la revue Esprit, présente lundi une conférence sur la violence qui fait mal aux religions. Début de la conférence à 20h, elle se terminera à 22h. Elle a lieu à la salle paroissiale de Bizanos dans les Pyrénées-Atlantiques. Information au 06 70 72 52 03. 06 70 72 52 03. C'est la fin de cette Église Actualité. Rendez-vous lundi pour de nouvelles informations dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et on est toujours en direct de la maison diocésaine de Rodez. Et en face de moi, un invité de dernière minute. Il s'est rajouté au dernier moment, Pascal Fournier, qui est responsable de la communication et qui a permis aussi que cette émission se réalise. Vous aviez un petit message à faire passer.
Mais d'abord, je voudrais vous remercier, Timothée, et remercier Isabelle, remercier Francky, qui est à la technique, Christophe, qui est à Toulouse, toute l'équipe de Radio Présence de la rue des Feuillants. Voilà, c'était un bonheur de préparer toute cette matinale, de la vivre avec vous de manière un peu exceptionnelle Et j'avoue qu'on caresse l'espoir, toujours dans le diocèse de Rodez, d'avoir notre studio, d'avoir notre radio et de pouvoir rayonner comme ça de la joie. On a entendu beaucoup de joie ce matin, dans toute la matinale, beaucoup d'amitié, de fraternité. Et on ne peut que demander que ça s'amplifie encore.
Et aussi beaucoup d'espoir avec l'arrivée de ce nouvel évêque. On voit qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous. Je pense que les auditeurs l'entendent. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?
Alors nous sommes à la maison diocésaine Saint-Pierre, à Rodez, qui est une maison qui vit avec des étudiants, avec tous les services diocésains. Et aujourd'hui, Mgr Meyer rencontre dans la matinée tous les prêtres et les diacres de l'Aveyron. Ensuite, ils célèbrent la messe ensemble, ils prennent le déjeuner ensemble, avec aussi tous les responsables des services, des mouvements diocésains, les laïcs en mission dans les territoires. Donc, effectivement, on entend du bruit, mais parce que cette maison vit, parce que l'Église est vivante.
Et ce vivant Église, le lien est tout trouvé, s'achève sur ces belles paroles. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre radio. Merci encore au diocèse de Rodez et à cette belle maison diocésaine de Saint-Pierre de nous avoir accueillis. Nous reviendrons avec plaisir. Merci beaucoup à Christophe Aubry à la technique à Toulouse et à Francky Guéret qui s'est levé très très tôt pour installer le studio ici sous le préau de cette maison diocésaine et qui s'est couché très très tard. Merci à lui et merci aussi à Isabelle Duché qui a réalisé de formidables interviews. Plusieurs interviews entre 7h et 9h. Vous pouvez réécouter cette matinale spéciale et ce Vivante Église spécial Rodez sur notre site internet radioprésence.com. L'émission sera aussi en rediffusion, vous en avez l'habitude, ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Présence.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.